Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Ça commence bien. Quand un philosophe nous éclaire sur un autre philosophe, vous êtes l'auteur donc de ce dictionnaire amoureux de Montaigne paru chez Plon. Ça fait quelques décennies d'ailleurs, André Comte-Sponville, que vous entretenez une histoire, comment dire, privilégiée, amicale avec Montaigne. En quoi est-il si attachant pour lui consacrer un nouvel ouvrage ?
D'abord, c'est un écrivain de génie. Le plus grand écrivain français, disait André Gide, qui s'y connaissait en littérature.
Sur le plan du style ?
Oui, de l'écriture. Moi, j'ai coutume de dire c'est l'un des deux plus grands écrivains français. L'autre étant Victor Hugo. Mais vous voyez, ça dit assez à quel niveau Montaigne se situe. C'est une prose d'une saveur invraisemblable, inégalée. Alors, en partie parce que c'est le français du XVIe siècle qui est tellement beau, tellement savoureux, en effet, mais aussi...
Enfin, encore faut-il le lire, ce français du XVIe, encore faut-il le lire.
C'est pas facile. C'est pour ça que c'est un auteur aussi parfois difficile à lire, parce que son français n'est plus tout à fait le nôtre, c'est du français moderne.
Il faut presque une traduction.
De l'ancien français, comme certains disent, non, c'est du français moderne, mais du français moderne du XVIe siècle. C'est aussi pourquoi j'ai fait ce dictionnaire amoureux, parce que je sais d'expérience que Montaigne est un écrivain de génie, mais difficile à lire. Et donc j'ai voulu, dans ce dictionnaire, à la fois citer les plus belles pages de Montaigne, parce qu'un dictionnaire amoureux, c'est forcément aussi une espèce d'anthologie, mais surtout les commenter, les mettre en scène, bref, accompagner le lecteur dans sa découverte de Montaigne. Mais deuxième chose, cet écrivain de génie est aussi un immense philosophe, ce qui n'était pas le cas de Victor Hugo, même si Victor Hugo touche à la philosophie.
Un immense philosophe qui n'a jamais vraiment cru à la philosophie.
Et qui n'en est qu'un meilleur philosophe. Justement, le paradoxe de Montaigne, c'est que c'est un philosophe sans doctrine, à la limite, je dirais presque un philosophe sans philosophie, au sens où il n'adhère totalement à aucun système, à aucune école. Vous savez, Wittgenstein, au XXe siècle, écrira « La philosophie n'est pas une doctrine, mais une activité ». Eh bien ça, c'est exactement la conception que Montaigne a de la philosophie. Il n'adhère absolument à aucune doctrine, il est sceptique, mais en même temps, il pratique merveilleusement cette activité philosophante.
Alors c'est donc avec malice qu'il écrit, qu'il dit « je ne suis pas philosophe ».
Oui, mais là, dans le contexte, ça veut dire plutôt « je ne suis pas un sage ». Il explique que quand il a mal, il lui arrive d'être triste, d'être angoissé. Et donc voilà, quand il dit « je ne suis pas philosophe », ça veut dire « je ne suis pas un sage, je suis aussi fragile que n'importe qui, que vous et moi ». Et puis enfin, troisième chose, il faut le dire, c'est que cet écrivain de génie, cet immense philosophe, est aussi, et peut-être surtout, un type formidable. Je ne connais pas d'auteur plus sympathique, plus attachant, plus libre d'esprit. C'est le plus libre des esprits libres.
Vous auriez aimé être la Boétie, non ?
Pardon ?
Vous auriez aimé être la Boétie, être son ami ?
Son ami ?
J'aurais aimé être la Boétie, oui, pour toutes sortes de raisons. J'aurais aimé être l'ami de Montaigne, mais surtout, ce que tous les plus grands esprits ont dit, et qui est très vrai, c'est qu'on ne peut pas lire Montaigne sans avoir le sentiment de rencontrer un ami. Et un ami tout à fait intime, qui vous accompagne tout au long d'une vie. Et ça, c'est tout à fait étonnant, parce que il n'y a pas tellement de génie sympathique. Ce sont deux choses différentes. Eh bien voilà, Montaigne est le cas rare et précieux d'un génie infiniment sympathique.
Et à propos d'amitié avec la Boétie, quelle était la nature de leur rapport ? Est-ce qu'il y avait de l'ambiguïté dans leur rapport, par exemple ? Ambiguïté sexuelle, allons-y.
D'évidence, la Boétie, c'est le grand amour de Montaigne. C'est une amitié passionnelle. Est-ce que cette amitié passionnelle comportait inconsciemment une dimension homosexuelle, ça n'est pas du tout exclu, c'est même peut-être probable. Est-ce qu'il y a eu passage à l'acte ? Est-ce qu'ils étaient homosexuels ? Est-ce qu'ils ont du rapport sexuel ensemble ? Personne ne le sait. Personnellement, je ne le crois pas, parce que la façon dont Montaigne parle de la Boétie ne va pas du tout dans ce sens-là. D'ailleurs, Montaigne, qui parle et d'amour et d'amitié, les distingue essentiellement par le fait que l'amour, pour lui, c'est essentiellement la fusion des corps, et que l'amitié, c'est essentiellement la fusion des âmes. Et ce qui l'a bouleversé dans son amitié avec la Boétie, c'est la fusion des âmes. Alors, je ne peux pas vous certifier qu'ils n'ont pas couché ensemble, je m'en moque un petit peu en vérité, mais moi, je ne le crois pas.
Mais donc voilà,
c'est une amitié passionnelle, comme on est plusieurs à en avoir vécu. Moi, j'ai dans ma jeunesse, j'ai eu au moins deux amis que j'aimais passionnément, et je n'avais pour eux aucune attirance sexuelle. Heureusement que toute passion n'est pas forcément sexuelle.
Mais pour autant, il n'a aucun mépris pour le corps, dont il parle beaucoup, jusque dans ses plus petits recoins, on dirait.
Oui, il n'a aucun mépris pour le corps, et même il se reconnaît résolument génital. J'ai des approches résolument génitales. C'est-à-dire qu'il adore le corps, il adore les plaisirs de la nourriture, nature, les plaisirs de la chair, les plaisirs du sexe.
Monsieur
et
ma
et là, il est résolument hétérosexuel, d'évidence. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui aime la vie. Non pas qu'il ait toujours le bonheur aussi facile qu'on pourrait le croire. Encore une fois, il est, comme nous tous, soumis à l'angoisse, à la souffrance. Il a d'atroces coliques néphrétiques.
Mais vous émettez l'hypothèse qu'il était bipolaire aussi.
C'est lui qui le... Enfin, il ne le dit pas comme ça, bien sûr, c'est le langage du XXe siècle. Mais oui, il décrit cette espèce d'oscillation entre une joie presque exagérée et puis des moments de tristesse, de dépression. Mais tout son talent va être de transformer ce qu'il est en bonheur, au fond, parce que la sagesse de Montaigne, au fond, se résume en une phrase à la fin des essais. Montaigne écrit simplement « Pour moi, donc, j'aime la vie ». Et ce que Montaigne nous aide à faire, c'est à aimer la vie, non pas en se racontant des histoires sur elle, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui veut absolument penser positif. Il dit la vérité sur la vie en général, sur la sienne en particulier, et il nous aide à l'aimer. Et comme il écrit dans une époque terrible, au temps des guerres de religion, au temps de la peste aussi, Montaigne nous offre un art de vivre par temps de catastrophes. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est
forcément
un cadeau merveilleux.
Et il y a aussi cette idée qu'il était maître zen. Vous y consacrez un article. Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Alors, ce n'est pas la zénitude dont on parle aujourd'hui, mais c'est une forme tout de même d'ouverture au monde, à l'autre, à soi.
Oui, Montaigne, bizarrement, paradoxalement, est très proche des penseurs orientaux. Et à bien des égards, plus proche des penseurs orientaux, notamment bouddhistes ou taoïstes, que des penseurs occidentaux. Par exemple, il y a quelques années, j'ai fait un débat avec François Julien, le sinologue bien connu, sur le bonheur. Et donc, François Julien expose la conception chinoise du bonheur, moi les conceptions occidentales du bonheur. Nos deux exposés étaient parallèles plutôt que convergents. On ne parlait pas de la même chose. Sauf que dans le débat, on a discuté ensemble, et on est tombé d'accord, ce qui n'était pas prévu au départ, pour dire que Montaigne était le plus chinois des penseurs occidentaux. Pourquoi ? Parce que c'est un penseur de l'immanence, alors que l'Occident vit plutôt de transcendance, Dieu, l'absolu. C'est un penseur du devenir, alors que l'Occident préfère l'immuable, l'éternel. C'est un penseur qui nous aide à prendre soin de notre vie, comme dit François Julien, alors que les Occidentaux rêvent plutôt d'une sagesse tellement radicale qu'elle est en vérité hors d'atteinte. Et puis, c'est un penseur de la souffrance, parce qu'au fond, la première vérité sainte du bouddhisme, Sarvam Dukkham, ça veut dire « tout est souffrance, tout est insatisfaction ». Eh bien, Montaigne ne cesse de le dire quand il écrit « ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Ça veut dire exactement « Sarvam Dukkham », sauf que lui en tire des leçons de sagesse, mais plutôt et surtout des leçons de bonheur. Et encore une fois, c'est ça qui est merveilleux, parce que moi, j'ai coutume de dire qu'au fond, Montaigne m'a guéri d'une espèce d'exaltation philosophante de ma jeunesse. Quand j'ai lu Épicure, quand j'ai lu Spinoza, bien sûr, j'étais bouleversé par ces génies immenses, mais du coup, j'avais de la sagesse, une conception sans doute trop absolue pour qu'elle soit véritablement opératoire. Parce qu'au fond, Épicure écrit, par exemple, à la fin de la lettre à Ménécée, « Médite mes leçons jour et nuit et tu ne seras jamais troublé. Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. »
Et donc cet idéal de sagesse, André Comte-Sponville, cette injonction de la sagesse, vous l'avez mise à distance grâce à Montaigne?
Oui, cette sagesse-là, parce que sincèrement, à 18 ans, ça m'a exalté, le texte de Épicure que je disais. Mais si maintenant, aujourd'hui, je vous disais « je ne suis jamais troublé, je vis comme un dieu parmi les hommes », vous diriez qu'on se a pété les plombs. Vous auriez bien sûr raison. Ça veut dire que Montaigne m'a aidé à faire mon deuil de cette sagesse absolue, immuable, indestructible d'Épicure ou de Spinoza, mais non pas renoncer à toute sagesse, parce qu'il m'a aidé à penser ce que j'appelle une sagesse de second rang, c'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, précisément au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être. Une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter.
Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors.
Voilà, c'est ça. Et être de plein pied avec la vie telle qu'elle est, sans avoir besoin d'en inventer une autre, sans avoir besoin de se donner un idéal de sagesse absolue, mais nous aider à aimer la vie telle qu'elle est. Et je pense qu'en effet, c'est le secret de la sagesse, mais de la sagesse vraie, pas de la sagesse comme idéal. C'est le secret du bonheur.
Alors, il y a dans ce dictionnaire amoureux de Montaigne, évidemment, à la lettre E, E comme essai, les essais de Montaigne. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un essai? Ce concept qu'il invente, qu'est-ce qu'un essai au XVIe siècle?
Ben, un essai, c'est une tentative. Hein. Comme on essaie aujourd'hui, c'est pas une voiture. À l'époque, on essayait un cheval ou une épée.
Sauf qu'aujourd'hui, on dit c'est pas de la prose, c'est pas du roman, donc c'est un essai.
Mais c'est pour ça qu'on se trompe sur ce titre essai, parce qu'en effet, vous avez raison. Aujourd'hui, ce mot d'essai, ça désigne un genre littéraire. Au fond, tout livre de prose et d'idées, on appelle ça un essai. Sauf qu'au XVIe siècle, le mot n'a pas du tout ce sens-là. Montaigne, il essaie. Là. Il essaie quoi? Il essaie ses propres facultés, comme il dit. Il essaie son jugement. Il essaye de vivre, il essaye de penser, il essaye d'écrire, et il écrit dans les essais, ce sont ici les essais de ma vie. Voilà. Il essaye de vivre.
C'est quand même génial d'avoir intitulé ça.
Et le paradoxe, et le miracle, c'est que il invente un nouveau genre littéraire, hein, qui n'existait pas à l'époque, qu'il nomme, qu'il baptise, essai, et il s'installe définitivement au sommet du genre qu'il vient de créer et de baptiser. C'est un cas sans aucun autre exemple dans toute l'histoire de la littérature ou de la pensée.
Avec 3 tomes, dont vous dites qu'il faut commencer par le 3e pour mieux comprendre. Pourquoi le 3e ?
Ça n'est pas un impératif, mais comme Montaigne crée un genre nouveau, inédit, ben il a mis du temps pour trouver son style, pour fonder ce genre-là. Et donc, les tout premiers essais sont un peu maladroits,
sont un peu décevants. Il y a une dame un jour qui vient vers vous, vous le racontez dans votre livre.
Oui, alors une fois, je fais une conférence, et je sors de la conférence, et une femme qui était dans le public m'aborde et me dit exactement ceci. Ah, écoutez, à cause de vous, j'ai lu Montaigne, qu'est-ce que j'ai été déçu. Je lui ai répondu un peu durement, écoutez, chère madame, ça n'est grave ni pour Montaigne, ni pour moi. Et puis je me suis repris, pour pas être trop dur, je lui dis, bon, refaites une tentative et commencez par le livre 3, parce que pour moi, c'est le sommet des essais. Le 3e livre, le dernier, c'est là où Montaigne maîtrise complètement son sujet, sa manière, son style. Mais une fois qu'on a lu le 3e, bien sûr, il faut lire le premier et le 2e, qui sont formidables aussi, mais si on commence par les tout premiers, on risque presque inévitablement d'être déçu, d'autant que la langue, encore une fois, est difficile. Et donc, commencer par le 3e, c'est commencer par le sommet. Et en matière de littérature, sinon en matière d'alpinisme, je crois que c'est plutôt une bonne démarche.
Elle comme laïcité, une entrée sur la laïcité, même si le mot ne figure pas en tant que tel dans les essais. En revanche, il y a l'adjectif laïque. Ça veut dire que Montaigne, vous le décrivez en tout cas comme étant favorable à la laïcisation de la pensée.
Oui, Montaigne est un esprit libre. Alors, il est catholique, sans doute catholique sincère d'ailleurs. On ne peut pas dire qu'il fasse semblant. Alors,
chrétien par hasard.
On ne peut pas être certain qu'il est de sa sincérité, parce que s'il avait dit « je suis athée », il n'aurait jamais pu publier les essais et même sa vie aurait été menacée. Et donc là, c'est l'Église qui est un peu punie par où elle a péché. Quand on n'a pas le droit de se dire athée, toute déclaration de foi est forcément un peu suspecte. Mais moi, mon idée, c'est qu'il est sincèrement chrétien, mais en effet, sa singularité, c'est qu'il se sait chrétien par hasard. Parce qu'il écrit dans les essais ceci, « Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands ». Et mon vieux maître ami Marcel Conge, dans un livre sur Montaigne, écrit « Dès lors que Montaigne est incontestablement périgourdin, il est tout aussi incontestablement chrétien ». Et j'en suis d'accord. Mais quelqu'un qui sait qu'il est chrétien...
Il faut m'expliquer le parallèle entre périgourdin et chrétien. Je ne vois pas bien le parallèle.
Parce que quelqu'un qui sait qu'il est chrétien parce qu'il est périgourdin, on me dit parce qu'il est né en terre chrétienne.
Parce qu'il est.
Il n'est pas chrétien au même sens que celui qui croit être chrétien parce qu'il a reçu une grâce directement du Seigneur, ou quelqu'un qui se croit chrétien parce qu'il sait que le christianisme est la vérité. Montaigne sait qu'il est chrétien parce qu'il est né en terre chrétienne. Or, il est né en terre chrétienne, bien sûr, par hasard. Eh bien, quand on sait qu'on est chrétien par hasard, on est un chrétien non dogmatique. Et moi, je dis toujours, Montaigne est sincèrement et sceptiquement chrétien.
Si seulement il y avait eu plus de Montaigne, parce qu'il faut quand même rappeler la guerre entre les protestants et les catholiques.
Guerre atroce, des dizaines de milliers de morts, 8 guerres. De religion sur plusieurs décennies, mais pendant la vie de Montaigne, 3000 morts en 48 heures, rien qu'à Paris, la Saint-Barthélemy. 3000 protestants assassinés en 2 jours, rien qu'à Paris. Et Montaigne est confronté à cette horreur-là. Alors lui, qui est catholique, et encore une fois, je pense catholique sincère,
et proche du
a horreur des extrémistes.
Et proche du futur roi Henri IV.
Oui, proche de Henri de Navarre, à l'époque, qui dort 2 fois... au château de Montaigne, qui est une sacrée marque de confiance. Quand on est le chef des protestants, dormir chez un catholique à l'époque, ça suppose qu'on lui fait une très grande confiance. Mais surtout, Montaigne est un modéré. Et en tant que modéré, il se sent beaucoup plus proche d'un protestant modéré que d'un catholique extrémiste. Et au fond, c'est ça la modération. Qu'est-ce que c'est qu'être modéré au sens où Montaigne en fait l'éloge ? Être modéré, c'est être plus proche d'un modéré du camp adverse que d'un extrémiste de son propre camp. Eh bien, c'est exactement le cas de Montaigne, et de ce point de vue, je dirais que la lecture des essais, c'est aussi une leçon de sagesse, mais donc de modération. Et je crois que notre époque en a singulièrement besoin.
Il se méfiait du discours religieux, véritablement ?
Il le met entre parenthèses. Alors peut-être par prudence, il dit toujours, moi j'ai pas à me prononcer sur la théologie, je ne suis pas un théologien, mon propos est laïque, et le mot laïque, en effet, l'adjectif apparaît dans le texte. Mais au fond, c'est pas ce qui l'intéresse. C'est le mot de Jésus n'apparaît que 7 ou 8 fois dans les essais et dans des contextes extrêmement pauvres. Le nom de Socrate apparaît peut-être 200 fois, Platon, Cicéron, Sénèque, encore plus, apparaissent des dizaines ou des centaines de fois. Montaigne, au fond, il est surtout fasciné par l'Antiquité. Ses vrais maîtres, ce sont les Grecs, les Latins. Et donc, je pense que son rapport au christianisme est un rapport un peu distant. Il va à la messe, il récite le Notre Père. Je pense qu'il est sincère. Mais au fond, il a décidé de faire comme si Dieu n'existait pas pour réussir sa vie ici et maintenant.
Et c'est sa proximité, André Comte-Sponville, avec les Grecs qui lui fait aussi aller spontanément vers la démocratie. C'est ce qu'il trouve le plus naturel, le plus équitable.
Oui, la démocratie, c'est un bien grand mot, disons vers la République. Comme la Boétie, d'accord. Il aurait préféré vivre à Venise plutôt qu'en France. Pourquoi ? Parce que Venise est une république. Que la Venise du XVIe siècle soit une démocratie, ça me paraît moins certain.
Il va jouer les charnières, les ponts entre... Vous parliez des Grecs, le pont vers le XVIIIe siècle, vers les Lumières et vers aujourd'hui encore.
Alors c'est quelque chose qu'a écrit mon regretté ami Zvetan Todorov, mais qui est très vrai. Zvetan écrivait « Montaigne, c'est celui qui a lu tous les anciens et que tous les modernes liront ». Et ça, c'est absolument vrai. Autrement dit, Montaigne, c'est comme la plaque tournante de la modernité. C'est là où s'invente notre modernité, parce qu'il fait la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge d'un côté, et la modernité de l'autre. Et effectivement, tous les auteurs du XVIIIe, ce qu'on appelle les philosophes, Diderot, Voltaire, Lamétrie, etc., vont se réclamer de Montaigne. Pourquoi ? Parce que Montaigne est un maître de liberté. Liberté de l'esprit, liberté de la pensée, liberté de conscience. L'un des essais s'appelle « Sur la liberté de conscience ». Et cette façon de penser ce que nous appelons la laïcité en plein XVIe siècle et au cœur des guerres de religion, c'est quand même d'une modernité tout à fait étonnante.
Et puis il faut mettre en évidence ce matin aussi ce que vous avez écrit, c'est la façon dont Blaise Pascal a pillé Montaigne. Aujourd'hui, il y aurait procès pour plagiat.
Non, parce qu'il dit que ça vient de Montaigne. Hein. Il met pas de guillemets, parce que c'est pas la tradition de l'époque. Mais non, il ne se cache pas. Alors, c'est l'une des rencontres les plus fascinantes de l'histoire de la pensée. C'est qu'entre deux génies, moi, je vénère Pascal autant que Montaigne, en vérité. En
plus, franchement, je préférerais dîner avec Montaigne qu'avec Pascal. Vous
oui, mais psychologiquement, ça, mais... pour mon malheur, je me sens beaucoup plus proche de Pascal que de Montaigne. Mais intellectuellement, évidemment, je me sens plus proche de Montaigne que de Pascal. Mais ce qui est fascinant, c'est que Pascal est un formidable lecteur de Montaigne, celui qu'il appelle l'incomparable auteur de l'art de conférer. C'est l'un des titres des essais de Montaigne. Et en même temps, il est heurté parce que il voit bien que Montaigne n'est pas chrétien au même sens que lui. Il voit bien que Montaigne est une espèce de païen, finalement. Bien sûr, il va à la messe, mais au fond, tous ses maîtres, ce sont des gens qui relèvent de l'Antiquité, donc au fond du paganisme. Et il dit qu'au fond, Montaigne ne se soucie pas du salut. Il enseigne une nonchalance du salut, écrit Pascal. Pour Pascal, c'est une condamnation. Pour moi, c'est merveilleux parce qu'exactement, Montaigne nous enseigne une nonchalance du salut, c'est-à-dire, on verra bien après la mort s'il y a quelque chose et quoi, mais essayons de profiter de cette vie, si j'ose tant dire, sans vif. Attendre d'être mort pour commencer à être heureux.
Et tant qu'on est vif, la mort n'existe pas presque en ce sens.
La nonchalance, l'une des leçons que nous enseigne Montaigne et que vous résumez dans ce dictionnaire amoureux de Montaigne, André Comte-Sponville. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin sur France Inter, ce dictionnaire amoureux de Montaigne qui est paru chez Plon.
Merci à vous.
Et bonne journée.